This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il est midi, vous êtes bien sûr CNews, c'est BNews Weekend, 12h, 13h, vous connaissez ce rendez-vous, c'est le grand JT de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette première partie. À la une, on va évoquer la réforme des retraites. Gérald Darmanin monte le son dans une interview cash chez nos confrères du Parisien. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays, ce n'est pas moi qui le dis, il fustige le gauchisme, paresse et bobo. Dans cette édition, on évoquera un chiffre à 27 millions. Oui, 27 millions, c'est le nombre de rendez-vous médicaux qui chaque année ne sont pas honorés par les patients. Témoignage d'un médecin confronté quotidiennement à ce phénomène. Donald Trump, le retour, l'élection de 2024 est notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d'un leader qui est prêt à le faire dès le premier tour. L'ancien président américain affiche les couleurs. Harold Iman nous dira ce qu'il faut retenir de ce discours. Enfin, dans cette première partie du Grand JT, je vais vous emmener au Salon du mariage qui se tient ce week-end à Paris. Une spécialiste du mariage nous dira tout sur les dernières tendances. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Avec moi ce matin, Naïma Mfadel, essayiste. Soyez la bienvenue, Naïma.
Bonjour Thierry.
Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Laura Lebar, psychanalyste. Soyez la bienvenue aussi, Laura. Et Patrice Sarditi, journaliste.
Bonjour Thierry.
Allez, on commence ce journal avec la réforme des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, dit ce matin Elisabeth Borne dans les médias. À 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale, le gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire, monte au créneau, notamment dans Le Parisien. Et cette interview de Gérald Darmanin en très très grande forme. Les détails avec Alexis Vallée.
C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique à l'égard de l'ANUPS.
L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. L'ANUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays.
Pour le ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés, tandis que les autres, selon lui, prônent un gauchisme paresse et bobo.
Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Madame Rousseau. Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
À la veille des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, 7000 amendements ont été déposés, dont la moitié par l'ANUPS.
Patrice Sarditi, le moins que l'on puisse dire, c'est que Gérald Darmanin est dans une certaine constance.
Certes, et le mot est très bien choisi, mais ça n'est pas pour rien que Gérard Darmanin s'est placé au premier rang, comme ça. Il n'a rien à voir, en principe, avec les retraites. Il est ministre de l'Intérieur. Mais je crois qu'au niveau de l'arme qu'a essayé de dégager monsieur Macron, il a bien choisi Darmanin, parce que c'est le seul qui, manifestement, pouvait employer certains mots et certaines images, le bordel, par exemple.
Il les cache, sans
qu'on lui tape dessus. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur, le foutoir, le bordel. Il accuse un certain nombre de personnes, et particulièrement la gauche, des bobos. Il les cache et il a raison de le faire, parce qu'il y a quand même 76% des Français qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette réforme. Et franchement, là, il faut essayer de reprendre un petit peu la main et de leur dire, écoutez, je vous mets en face de vos responsabilités. Il s'agit pratiquement d'une question de vie ou de mort.
Laura Lebar, cette constance à communiquer de manière aussi cache, ça vous inspire quoi, vous, en tant que psychanalyste? Ça m'intéresse.
Alors, c'est ce que je disais déjà la semaine dernière. Il y a une espèce de constance permanente à être toujours dans l'attaque de l'autre, comme si la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc c'est un petit peu dommage. On va laisser la parole à Naïma qui parlera mieux de ce sujet que moi.
Non, mais Naïma, en fait, je veux dire, Monsieur Darmanin ne fait que répondre à la constance de la NUPES. Rappelez-vous ce que disait Mélenchon. Il va aller chercher la colère. Il veut une société du chaos. Rappelons-nous aussi ce qu'a dit Madame Marine Tondelier, qui a dit on va mettre en place une ZAD au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que finalement Darmanin ne fait que répondre à cet ADN qu'a aujourd'hui la NUPES.
Et selon un sondage paru aujourd'hui dans le JDD, 68% des Français restent opposés à la réforme des retraites. Pas de commentaire ?
Oui, mais ça ne m'étonne pas, hein, de toute façon. Alors la seule chose qu'il faut redire aussi, parce que M. Darmanin a beaucoup aussi parlé de la réforme de la retraite, effectivement, le gouvernement n'a pas pris en traître les Français, puisque c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on peut regretter, c'est le manque de concertation. Et je pense que s'il y avait eu une concertation avec les Français, via notamment l'Association des maires de France, puisqu'ils sont au plus près des terrains, je pense que vraiment, on aurait pu, en tout cas, peut-être arriver à un consensus sur une réforme qui puisse, en fait, satisfaire tout le monde. Il faut entendre les Français. Les Français ont aussi des idées sur cette question.
Bien sûr, c'est vrai, mais c'est maintenant du passé. Et Elisabeth Borne, finalement, ces dernières heures, elle a également mis les points sur les i en disant cette réforme, elle est, et le terme est bien choisi, nécessaire. Oui, c'est quoi nécessaire? C'est presque une obligation.
Mais le fait qu'elle soit nécessaire n'empêchait pas justement cette démarche de concertation.
Alors, moi, je vais très rapidement sur ce que dit Naïma. Effectivement, en psychologie, c'est très important d'écouter la personne qui travaille, d'écouter le travailleur, d'écouter le citoyen. Et effectivement, dans toute cette histoire de retraite, on est pour, on est contre. Finalement, il n'y a pas de solution d'écoute qui est apportée. Donc, je suis assez d'accord. Et en psychologie, on le sait très bien, il est très important que l'interlocuteur en face se sente écouté, se sente entendu pour tourner vers une solution.
Allez, on continue dans la petite série Cash. Je vais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé hier dans un discours dans le Val-d'Oise auprès du député LFI Carlos Martins Vilongo. Je vous propose de l'écouter. Petite réaction rapide. On est dans le cash, on est dans le cash et on est dans le cash.
Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité. Celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage. Parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant 43 ans sans pause.
Bon, visiblement, accumuler de l'argent est immoral, hein ?
Alors, oui, alors là vraiment, je voudrais rebondir parce que je pense que c'est très très important. On est dans une société où il y a de plus en plus de violence. On est dans une société où les citoyens ont peur, où on a peur de sortir de chez nous. Et ce genre d'appel à tout le temps à accuser l'autre en permanence, cette déresponsabilisation est extrêmement grave pour la société. Il faut vraiment arrêter ce genre de discours. On peut penser ce qu'on veut, on peut avoir dans les convictions qu'on veut, mais être en permanence dans vouloir soulever le peuple, pour moi, je trouve ça extrêmement
dangereux. Et puis c'est malhonnête, parce qu'on est vraiment dans une démarche populiste où il indique qui est en fait l'ennemi, qui est notre ennemi, et l'ennemi de celui qui gagne pas beaucoup sa vie, enfin ceux qui sont dans des conditions modestes, et c'est ça qui est grave. Et on crée aussi.
Et puis Marine Tondelier aussi, dans le même domaine, avait Marine Tondelier aussi à plaider pour une France sans milliardaires. Enfin, c'est la petite musique.
On crée une déresponsabilisation. Je vous rejoins sur la petite
musique. Très rapidement, Patrice.
Quand on en vient à ce genre d'adjectif, souvenez-vous de Soyez maudits, monsieur Macron, c'est qu'on est à court d'argumentation. Et donc, il est en pleine démagogie, il est en plein opportunisme et il va continuer de mal en pis.
Allez, Fabien Roussel, lui, était l'invité ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos et bien sûr de notre ami Sonia Mabrouk. Et devinez, il a réagi sur cette réforme des retraites. On l'écoute.
Le gouvernement le sait. C'est que s'ils brutalisent le peuple, s'ils font le choix de brutaliser le peuple et d'aller jusqu'au bout sans jamais tenir compte, les conséquences seraient graves derrière. Les conséquences seraient graves parce que il y aura. On dit que le fossé s'agrandit entre les citoyens et les politiques et la politique et la démocratie. Quels seront les moyens pour les Français de se défendre, de se faire entendre, quand il y a un tel entêtement.
Naïma, petite réaction sur les propos de Fabien Roussel.
Oui, je l'ai écouté ce matin et ce qui m'a beaucoup plu dans son discours, c'est qu'il a remis au centre la valeur travail. Et c'est ça qui est intéressant. Et il est vraiment le digne héritier du communisme où on voyait l'ouvrier avec son bleu de travail qui était investi dans, qui mettait en fait en valeur le travail, justement en portant souvent son bleu de travail.
Allez, tout de suite, je vous pose une question. Vous sentez-vous en sécurité? À cette question, 53,7% des Franciliens répondent que non. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et qui diffère aussi selon les territoires. C'est d'ailleurs en Seine-et-Marne que ce sentiment est le plus fort. Il grimpe à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région. Alors ce midi, on a voulu savoir pourquoi. Enquête de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
C'est un pied de biche, à mon avis.
Il y a 2 semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
C'est pas très étonnant parce que il y a quand même eu pas mal de dégradation sur la commune. Bah, j'ai peur parce que si vous voulez, s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir 2 fois. Donc, mes enfants, ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour aller habiter à La Rochelle, justement parce qu'il y a pas mal d'insécurité.
Selon une récente étude, c'est en Seine-et-Marne que le sentiment d'insécurité est le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes.
On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Et c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue.
Un jour j'étais dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me suivre, qui a fait demi-tour au rond-point pour être du même côté que moi, et qui m'a dit monte dans la voiture et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit je suis au téléphone avec mon père et tout ça.
Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Île-de-France.
Laura, petite réaction sur ce sentiment d'insécurité. 53,7% des Franciliens qui répondent que non, ils ne se sentent pas en sécurité.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont montrer que les Franciliens ont raison, malheureusement. C'est-à-dire que quand on prend les chiffres, on est à 15% d'augmentation de violence, on est à 15% de violence intrafamiliale en plus, on est à 40% d'agression sexuelle en plus. Depuis le Covid, a créé un état de stress post-traumatique global, sans suivi. Finalement, les suivis psychologiques sont très très faibles. On a un gouvernement qui n'a pas non plus mis les moyens là-dessus. On voit bien, en fait, c'est le reflet de quoi ? Des pandémies dans l'histoire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. On sait très bien qu'il y a deux façons. Soit on va protéger les biens, soit on va protéger les personnes. Ce que ces chiffres reflètent, c'est que finalement, il y a moins de vols de téléphones portables parce qu'on a protégé nos téléphones portables, mais qu'il y a plus d'agressions à la personne puisque les personnes ont l'impression qu'elles peuvent faire sans être punies. Et ça, c'est un véritable problème de société. Donc quand les Franciliens ne se sentent pas en sécurité, effectivement, quand on a 40% d'augmentation des agressions sexuelles, là, on est en pleine régression. Quand on voit une augmentation de tous les crimes avec violence, une augmentation des cambriolages avec violence, et là où ça diminue, alors oui, on a moins d'agressions en pleine rue, on se fait moins voler son sac, mais il y a plus d'agressions d'êtres humains.
Et vous basez sur quoi, Laura ?
Alors ça, c'est des statistiques qui sont sorties l'année dernière d'une recherche qui a été faite sur les chiffres de 2021, que vous pouvez retrouver très facilement. C'est des statistiques qui sont réelles et qui sont, enfin, à la lecture de ça, je vous dis, le reflet, c'est qu'on protège les biens et on ne protège pas l'être humain. Et ça, c'est un fait de société sur lequel il faut vraiment se pencher.
Patrice.
Pour corroborer ce que vient de dire Laura, il y a quand même plus de 43% des Franciliens âgés de 15 ans ou plus qui affirment avoir déjà été agressés en simplement une seule année. Et vous vous rendez compte, au niveau des préoccupations, on a la pauvreté, on a le chômage et l'insécurité arrive tout juste derrière. Donc il faut vraiment mettre des moyens.
On a aussi sur Paris une surreprésentation du vol à la tire. Vol à la tire et justement des personnes âgées aussi qui se font agresser, qui se font dépouiller. C'est une réalité. Et les touristes maintenant ont peur de venir sur Paris parce que justement, elles sont un public cible.
Et deux mots très rapides sur le sujet.
Un mot rapide. Il y a aussi quand même un autre phénomène important, c'est qu'on note une augmentation de la drogue, des usagers de drogue, de stupéfiants, de drogue dure de plus de 38%. Et effectivement, ça n'aide pas au schéma. Il faut se poser la question, pourquoi nos citoyens se tournent vers des drogues dures? Je vois dans mon cabinet de plus en plus de pères de famille qui se tournent vers ça, des personnes qu'on n'aurait jamais pensé, et c'est un vrai sujet aussi. Il y a une espèce de normalisation du transgressif qui est très inquiétante.
Vous parliez du Covid, Laura, et justement, une page se tourne dans la lutte contre l'épidémie du Covid. La situation sanitaire s'améliore, et tant mieux, et les mesures aussi. Terminer l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives, terminer le test pour les personnes cas contact. Les détails avec Alexis Vallée.
C'est la fin de deux mesures phares dans la lutte anti-Covid. À partir du 1er février, les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler, tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. Décision prise suite aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique et à la baisse du nombre de contaminations en un mois, passant de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Dès lundi, le téléservice Contact Covid de l'assurance maladie prendra également fin. Il permettait l'identification et la prise en charge des personnes malades et des cas contact Covid. Un arrêt définitif loin d'être surprenant. Ses effectifs avaient déjà été fortement réduits, de 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre. Certaines mesures restent encore d'actualité, comme les contrôles imposés en France aux voyageurs provenant de Chine, prolongés jusqu'au 15 février au vu de l'évolution sanitaire. Les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés.
Allez, dans le reste de l'actualité aussi, les services publics aux abonnés absents du moins par téléphone. Ligne occupée, attente interminable, on l'a tous vécu, n'est-ce pas ? On a tous été confrontés à ça. Vous l'avez très certainement remarqué, c'est souvent la croix et la bannière pour joindre une administration. On va pas taper sur l'administration, mais c'est important de le signaler. À titre d'exemple, 72% des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54% des appels à la CAF. On est allé justement vous interroger sur le sujet. Qu'en pensez-vous ?
Mais je vais dire que c'est énervant. Parce que sur le moment, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un service. Et ne pas les avoir au téléphone, bah, ça fait péter un plomb.
Bon, on appelle et oui, on attend à peu près 5-10 minutes au téléphone. Après, on les a, hein, mais c'est assez long. L'attente est assez longue au téléphone. Il y a un manque au niveau de la CAF, des Sécu. Il y a un problème au niveau de leur personnel, je sais pas, de l'organisation.
Oui, c'est toujours des temps d'attente qui sont vachement longs, donc limite on abandonne de nous-mêmes. C'est des 15-20 minutes d'attente et on en a marre et on abandonne tout de suite.
Oui, assez souvent. Tout le temps même. Bah, des fois, j'appelle pour des problèmes que j'ai sur mon compte ou autre et non, j'ai personne au bout du fil. On fait patienter des fois une dizaine de minutes et après, ça raccroche. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
Bon, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle un micro-trottoir où on a pris la température des Parisiens ?
Il y a un truc qui est extraordinaire. Un truc qui est extraordinaire, c'est qu'on a tellement l'habitude de ça qu'au bout de 27, 28 appels, si on arrive à obtenir satisfaction, on est content. Mais franchement, c'est ça. Et finalement, on oublie jusqu'à la prochaine fois.
Alors moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis assez stupéfaite qu'on est vraiment dans une déshumanisation de l'humain. Et c'est vraiment ça, ce que je disais. Il y a vraiment ce côté où c'est déshumanisant, comme si la temporalité de la personne qui répond au téléphone est plus importante que la temporalité du citoyen. Finalement, c'est pas grave, lui, il a que ça à faire que de joindre les...
Non, on a affaire à un robot, c'est extrêmement perturbant. Et moi, je me suis vue des fois où je faisais comme toi. Plusieurs fois, j'insistais, où je le posais et j'attendais en le mettant au haut-parleur. On est tous confrontés à ça, mais c'est scandaleux. Vous savez qu'en plus, on vous demande d'appuyer sur tel ou tel numéro 1, 2, 3, les touches 1, 2, 3, pardon. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes aussi liés à des personnes qui ne maîtrisent pas le français, qui ne maîtrisent pas aussi tout ça et qui se retrouvent vraiment désemparées.
Allez, on enchaîne. Je ne sais pas si lui, il est bien branché, mais si, il est avec nous. Harold Diman, le retour. Donald Trump, il a prononcé un discours assez punchy hier et il n'est pas aussi populaire que chez les élus républicains que par le passé. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Il a fait deux meetings de taille modeste dans le style traditionnel, un dans le New Hampshire et un autre en Caroline du Sud, dans le Capitole. Dans le New Hampshire, il était dans un lycée. Il veut faire ça un peu modeste. Et donc, il ne nous a pas bassinés avec l'histoire de « on m'a volé l'élection », etc. Non, il a parlé de choses peut-être plus agressives encore. Il a parlé de combattre le communisme et le marxisme, qui sont des radicaux gauchistes, racistes et pervers, qui veulent endoctriner vos enfants. Et puis, son nouveau cheval de bataille, c'est la lutte contre les athlètes transgenres dans le sport féminin. Là, il a vraiment, vraiment mis une couche. Il s'est vanté de ses efforts et ses succès par le passé, avec le déficit et l'arrivée d'immigrés clandestins. Mais voilà, il manquait plusieurs ténors républicains qui, eux, lorgnent vers d'autres postulants à l'investiture du parti.
Allez, merci beaucoup, cher Harold. On va prendre la direction du salon du mariage pour terminer cette première partie du Grand JT de la mi-journée. Et le salon du mariage, il se tient où ? Il se tient à Paris, un secteur qui retrouve des couleurs après le Covid et qui s'apprête à vivre une année record. Reportage de Marion Bercher et Sarah Fanzari.
Ils étaient plus de 240 000 Français à se dire oui l'an passé. 2023 devrait être l'année de tous les records. Et pourtant, ils sont inquiets, les futurs mariés.
Ils nous disent souvent que le budget est un peu serré, donc si on peut retirer par exemple le gâteau et garder l'entrée et le plat et le vin d'honneur.
Presque 7 couples sur 10 craignent que l'inflation ait des conséquences sur la préparation de leur mariage et beaucoup privilégient la qualité à la quantité.
Le seul vrai truc finalement pour économiser, c'est d'inviter uniquement les gens que vous aimez bien, parce que quand vous enlevez 20 ou 30 personnes, c'est tout de suite 2, 3, 4 000 euros que vous allez enlever à votre budget de mariage.
Et les futurs mariés y pensent bien.
Bah comme je disais tout à l'heure, les invités, je pense qu'on va privilégier les proches, proches.
Ouais. Réduire la liste des convives, mais pas seulement.
Les prestataires comme les photographes, le fleuriste, on va demander à des proches.
Sur tout ce qui est cadeau des invités par exemple, on fait attention à ce qu'on prend, sur les animations.
Selon une étude, le budget moyen des ménages est de 9 900 euros, soit une baisse de 1 200 euros par rapport à l'an dernier. Et même les robes de mariée sont impactées.
Depuis le Covid, après le Covid, on a remarqué qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat des femmes. Il y a un problème de budget.
Des économies pour le jour J, mais certainement pas pour le voyage de noces. Avec 6 200 euros de budget, c'est 2 500 euros de plus que l'an dernier.
Ah voilà, ça fait rêver. Hein. Eh bien, on va retrouver tout de suite Amel Anthony. Soyez la bienvenue, Amel. Vous êtes alors wedding planner à l'agence Amel Event. Alors, wedding planner, c'est, en fait, vous organisez des mariages, c'est ça. Soyons. Et bonne santé. je vous vois boire un verre. Soyez la bienvenue. Alors, comment se passe le salon du mariage? Est-ce que les budgets des couples sont en baisse?
Alors, bonjour Thierry, je suis Edwige Labrousse et je ne...
Ah, ben alors il y a une petite erreur là alors.
Je vais intervenir maintenant.
C'est une petite erreur, donc oui, vous devez intervenir plus tard.
Absolument.
Bon, et ben on vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure. C'était la surprise. Bon, alors, ça vous fait rêver ou pas?
Alors, non, ce qui est amusant, c'est de voir que les budgets sont en baisse. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire quand on analyse les choses, quand on met moins de budget quelque part, c'est que finalement, on est moins convaincu. Si on sait qu'on va acheter qu'une seule maison, on va mettre un budget plus important. Aujourd'hui, les couples savent qu'ils vont déménager. Il y a quand même une peur de l'engagement. En tout cas, moi, je le vois en cabinet. Il y a une vraie peur de l'engagement. Il y a les
faut pas dépenser trop.
Faut pas dépenser trop. C'est un peu ça. Mais ça, je l'entends souvent. C'est terrible. Mais c'est ce que j'entends en cabinet. C'est-à-dire que les gens mettent moins d'argent dedans. Ou alors, ils vont plutôt privilégier la qualité de vie après que la fête en elle-même. Ça va être deux axes. Mais effectivement, il y a une crème quand même. C'est normal quand on voit les statistiques de divorce sur trois à Paris. C'est pas non plus super. On n'a pas très très envie, mais en tout cas, oui, cette baisse de budget, il y a deux raisons en tout cas que moi je vois en cabinet. Un, c'est qu'il y a un plus petit système de croyance sur le fait que ça va durer toute la vie. Et c'est pas très grave finalement, les jeunes le vivent plutôt bien en se disant ça fait partie de ma vie, c'est une expérience. Et l'autre chose, c'est qu'ils privilégient vraiment la qualité de vie à une robe qu'on va mettre juste une journée, quoi.
En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'ils viennent, qu'ils se marient en se disant ça va pas durer toute
la vie. Ah, mais c'est terrible, c'est des consultations que j'ai régulièrement.
Bon, vive le mariage quand même. Vive le mariage. 12h22, on va marquer une pause dans ce grand JT de la mi-journée. On a beaucoup de choses dans la deuxième partie. Ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins. A tout de suite. Et vous êtes bien sur CNews, il est quasiment 12h30, c'est au grand JT de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. À la une donc, on va prendre la direction de Montmartre. Pourquoi Montmartre, me direz-vous? Le quartier ô combien vitrine de Paris subit la vente à la sauvette, les agressions, les vols à la tire, reportages et témoignages dans ce journal. Jour J-2 avant la prochaine grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les autorités s'attendent à un mouvement massif. Face à cela, le gouvernement se montre inflexible. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Elisabeth Borne qui le confirme ce matin. Gauthier Lebret nous dira tout. Après les deux attentats en Israël, le gouvernement a annoncé des mesures contre les familles de terroristes. Harold Iman nous fera un point complet sur la situation. Enfin, la petite surprise de ce JT, je vous emmène au zoo, direction le zoo de Thoiry. Immersion au milieu de lumières sauvages, je ne vous en dis pas davantage. Visite guidée avec Thibaut Marcheteau. Très belles images que vous découvrirez à la fin de ce journal. Avec moi, Naïma M. Fadel, Laura Lebar, Patrice Arditi et Harold Iman. Ce sont les dernières 30 minutes de ce JT. On va donc débuter cette deuxième partie du Grand JT en prenant les directions de Montmartre. On vous emmène sur le marché de la Porte de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. C'est tout au nord de la capitale. Là-bas, les commerçants n'en peuvent plus car les agressions et les vols à la tire sont récurrents. Évidemment, cela fait fuir les clients. La police affiche pourtant sa présence régulièrement. Mais malheureusement, la délinquance s'empare peu à peu du terrain. C'est un reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. On en parle juste après.
Ne tourne pas autour, c'est tout ce que je t'ai dit. Viens pas de mon frère. Arrête de me tourner autour, c'est tout, point.
Sur le marché de la Porte de Montmartre, cette altercation avec un homme qui semble être un pickpocket est presque devenue une scène banale pour ce riverain.
J'ai senti sa main près de moi, presque dans ma poche.
Ça arrive souvent ?
Très très souvent. Ils vont essayer de piquer dans les poches, tout ce qu'ils peuvent, le téléphone, le portefeuille.
Dans ce marché à bas prix, implanté au nord de la capitale depuis des années, les ventes à la sauvette et les vols à la tire sont devenus monnaie courante.
Moi, je me suis fait voler mon porte-monnaie déjà 4 fois ici.
Régulièrement, des interpellations ont lieu sous les yeux des clients et des commerçants démunis face à cette délinquance.
Moi, je me suis déjà fait menacer par une personne. Je lui ai demandé gentiment de laisser mes clients acheter leur poisson tranquillement parce que je le voyais en train de voler à une dame, une personne âgée qui a ne serait-ce qu'une petite retraite pour vivre. Et il est venu me voir en me disant « Je pense qu'un jour, je vais te défigurer. » Ça devient très dangereux. Nous, notre bonne clientèle qui venait se sent complètement dans l'insécurité. Elle ne vient plus. Donc ça a aussi une répercussion sur notre chiffre d'affaires.
Pour tenter de régler la situation, le maire du 18e arrondissement a demandé des renforts de police au ministère de l'Intérieur.
Patrice, une petite réaction.
Bon, certes, il y a un sentiment d'insécurité, comme dans nos nombreux quartiers de Paris, ça c'est absolument certain. Maintenant, le marché que nous avons vu là, on ne peut pas dire que ce soit véritablement Montmartre.
Oui, c'est Montmartre.
Ce marché, il a déjà été assez décrié parce qu'il serait mal tenu, il y a des choses qui traînent. Bon, franchement, ce n'est pas très bien rangé et ça favorise la venue d'un certain nombre de personnes. Mais il y a des vols de téléphone, il y a des vols à la tire, quels qu'ils soient, il y a des gens qui sont bousculés et au niveau des commerçants qui sont là autour, il y a quand même un chiffre d'affaires qui a baissé de 20%.
Il faut souligner qu'il y a une surreprésentation aussi de la délinquance des mineurs qui sont enrôlés dans des trafics par effectivement des gangs.
Allez, dans l'actualité de votre semaine à venir, on en a parlé au cours de la première partie de ce Grand JT, la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier. Deuxième grande journée de manifestation à l'appel des 8 principaux syndicats du pays. Selon nos informations CNews, les autorités attendent une forte mobilisation, plus d'1 million de personnes dans les rues de France. 250 actions sont déclarées sur le territoire avec cette question ce midi. Le front syndical peut-il vraiment rester uni dans la durée? Réponse, notre spécialiste Gauthier Lebret.
C'est la première fois depuis 12 ans que les 8 principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010, contre la réforme des retraites, une nouvelle fois d'Éric Woerth. Mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT, sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger au micro d'Olivier Gangloff.
Les grèves, c'est important. Après, c'est les salariés qui décident. C'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide dans les entreprises de comment on construit la grève et comment combien de temps elle dure.
Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT ? Non. Je le redis, la CFDT, elle ne cautionne pas les coupures de courant. Elle n'est pas pour appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels.
Pour Laurent Berger et la CFDT, si bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment, puisque selon toutes toutes les enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites. Et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage, avec seulement une manifestation de temps en temps, eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le gouvernement. Alors en plus, selon plusieurs enquêtes, cette semaine, on a vu que l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus, en fait, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour les syndicats, c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
Allez, l'actualité de la semaine à venir aussi, c'est la nouvelle loi asile et immigration dont on a beaucoup parlé sur nos plateaux. Elle sera présentée ce mercredi en Conseil des ministres, un texte de 25 articles qui sera très fort. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, ce ne sont pas les miens évidemment, le ministre de l'Intérieur. Et dans Le Parisien aujourd'hui en France, il dit « on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. » Réaction ?
Écoutez, on va lui souhaiter beaucoup de chance au ministre Darmanin, parce que n'oublions pas que la France est prisonnière quand même des conventions traitées qu'elle a signées et que ça va être très difficile. N'oublions pas aussi que ce n'est pas du tout illégal de rentrer et d'installer en France, donc comment faire repartir les gens. N'oublions pas que les accords de Dublin ne fonctionnent pas parce qu'en fait, les pays européens ne jouent pas le jeu. Donc voilà, moi on veut bien y croire, mais je pense que Monsieur Darmanin aura beaucoup, beaucoup de difficultés à satisfaire en tout cas l'opposition, les oppositions. Un sens ou dans l'autre.
Patrice, alors, rapidement.
Les axes de la loi, c'est accélérer effectivement les expulsions d'étrangers délinquants, c'est en cas de menace grave de l'ordre public, la réduction du champ de protection dont bénéficient certains immigrés, et puis évidemment réformer le fameux système. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord, Éric Ciotti par exemple, pour les Républicains, qui dit, et c'est quand même autre chose que symbolique, qui dit que ce texte n'est pas suffisant.
Allez, on va prendre la direction d'Israël. Un jour après une série d'attentats palestiniens meurtriers dans Jérusalem-Est, dont on a beaucoup parlé évidemment, le gouvernement israélien mené par Benyamin Netanyahou prépare des mesures répressives d'une dureté inédite. Harold Diman.
Oui, alors le contexte, c'est l'attentat de vendredi déjà, contre un mitraillage contre les fidèles juifs qui sortaient d'une synagogue dans Jérusalem-Est, provoquant 7 morts et nombreux blessés. C'est le pire attentat depuis 15 ans. Et donc, on craint en Israël des loups solitaires. Même hier, il y a eu un jeune homme de 13 ans qui a tiré sur des passants dans Jérusalem-Est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement le plus dur de l'existence d'Israël, on peut dire, eh bien, on va emmurer les maisons des familles des personnes arrêtées, des terroristes, pour les démolir. C'est déjà fait dans ce cas-ci. Les prestations sociales à la famille de ces gens vont être coupés complètement. On va leur enlever leur carte d'identité israélienne qui leur sert à peu près de passeport. On va changer les réglementations sur les ports d'armes. Ça veut dire que plus de civils pourront en porter, parce que contrairement à la légende, en Israël, les gens n'ont pas des flingues sur eux dans la rue. C'est surtout des gens qui sont dans le service ou dans les réserves militaires. Accélérer la colonisation en Cisjordanie et arrêter de façon beaucoup plus large, faire des vastes filets chez les suspects pour la recherche d'armes. Donc voilà l'état des choses aujourd'hui.
Merci Harold. Alors dans nos émissions, on évoque souvent, même très souvent, la question des déserts médicaux. Une problématique que l'on aborde peut-être moins souvent et qui n'arrange rien, c'est celle des rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas. Le chiffre est colossal, je le disais dans les titres. Chaque année, 27 millions de rendez-vous sont ainsi perdus. Écoutez ce témoignage d'un médecin recueilli par Maureen Vidal.
En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leur consultation sans prévenir. Pour Edmond Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
En moyenne, en ce qui me concerne, c'est 2 par jour, 2 annulations, 2 pas venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'en ai 2 encore.
Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
La politesse et la bienséance et l'éducation, à mon avis, a perdu beaucoup de sens dans notre société.
En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
Non, mais là, je lui rends son dossier médical et je lui dis aimablement de trouver un autre confrère. Oui, non, ça, c'est pas, C'est pas acceptable, ça.
Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
C'est encore pire, parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont au premier, au plus proche et au premier qui est dispo.
Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
C'est dingue ce chiffre quand même, hein. Deux rendez-vous par jour perdus par ce médecin.
Eh bien, il faut prendre une décision pour répondre à cela. Et moi, je préconise, comme ce que fait l'Allemagne, une amende qui est envoyée par le centre des impôts à chaque personne qui n'honore pas ce rendez-vous.
Oui, mais là, il faut une modification de la loi.
Mais il faut modifier la loi, il faut arrêter de se moquer des médecins.
Effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas très méritants. Ça me fait penser dans un autre registre à ceux qui réservent dans un restaurant, puis dans un deuxième restaurant, et un troisième restaurant, et qui ne préviennent pas.
C'est pas pareil. Il y a des gens qui.
C'est une question d'éducation.
Des problèmes de santé.
Là, ce qui est épouvantable, c'est la perte de temps. Et des gens qui sont obligés de foncer aux urgences à cause de ça.
Il faut savoir ce qui se passe aussi à l'hôpital. Thierry, c'est dramatique ce qui se passe. On prend aussi rendez-vous à l'hôpital, des rendez-vous importants, notamment pour des IRM, et ils y vont pas. Donc c'est scandaleux. Il faut réagir et j'espère que l'État va réagir rapidement.
De façon très simple, hein, je suis praticienne, donc je suis sur Doctolib pendant le Covid, on demandait une empreinte carte bleue pour les rendez-vous en visio. Ce serait peut-être une solution, c'est très simple, c'est déjà mis en place. C'est une empreinte carte bleue si le patient est encaissé à la fin de la visio et il suffirait de demander une empreinte pour le rendez-vous. Nous, on a un bouton à appuyer, non honoré, et c'est débité.
Allez, on va changer de sujet avec le casse-tête de l'orientation post-bac. Alors que la plateforme, vous le savez, hein, Parcoursup est ouverte depuis quelques jours pour formuler ses vœux. On a de plus en plus d'élèves de terminale accompagnés de leurs parents qui ont recours à des coachs d'orientation privés. Et ça tombe bien, avec nous, on a Edwige Labrousse, coach professionnel certifié et coprésidente de l'association de coachs de jeunes générations 15-25 ans. Edwige, je ne vais pas vous parler de robe de mariée, hein, il y a une petite erreur technique tout à l'heure, mais tout simplement, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. C'est un phénomène croissant, on fait appel de plus en plus à vous parce que les étudiants, les collégiens sont de plus en plus perdus, c'est ça ?
Oui, alors c'est vrai qu'avec Parcoursup, on a la chance de permettre aux jeunes d'avoir accès à de plus en plus de possibilités. En revanche, ça complexifie un peu la réflexion autour de l'orientation, ce qui explique que les jeunes et leurs parents fassent de plus en plus appel à des professionnels dont c'est le métier.
Alors, dans quel état d'esprit sont nos jeunes ? Puisque vous les côtoyez ?
Nos jeunes sont souvent perdus. Oui, nos jeunes sont souvent perdus quand ils viennent à nous, parfois stressés. Et la plupart du temps, notre premier travail, c'est d'aller les aider à prendre conscience de qui ils sont, à les reconnecter avec leurs ressources pour les remettre en fait en état de confiance en eux et pour leur permettre de se remettre en route vers leur orientation, en tout cas pour résoudre leurs problématiques.
Et dis-je d'avoue, on va pas se mentir, mais ça a quand même un prix de faire appel à vos services. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un coach.
Alors oui, c'est vrai que souvent ce sont des parents qui nous envoient leurs jeunes. Mais nous travaillons aussi au service d'organismes, au service des écoles, au service des lycées, de l'enseignement supérieur. Égalité. Et également de structures associatives comme les maisons de quartier, les points d'information jeunes. Diverses structures associatives publiques ou privées également.
Eh bien, écoutez, merci mille fois Edwige Labrousse d'avoir été présent sur notre antenne et je rappelle que vous êtes coprésident de l'association de coachs de jeunes générations 15-25 ans. Un petit mot rapide, Laura ?
Vraiment, alors déjà, je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de système qui soit mis en place. Moi-même, j'ai beaucoup de consultations. J'ai un centre de diagnostic pour les enfants, pour les TDAH, les WISC. Et finalement, on se rend compte qu'il y en a beaucoup à l'adolescence qui n'ont pas été diagnostiqués. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que quand elle parlait de confiance en soi, souvent, il y a un retard dans le diagnostic qui fait que les enfants perdent confiance en eux. Et moi, il y a un autre problème que je vois chez les jeunes, que ce soit dans mon centre ou à titre personnel, qui est très vrai, c'est qu'ils ont peur que les métiers disparaissent. Et effectivement, ils ont besoin d'être orientés parce qu'ils ne savent pas quels vont être les métiers de demain.
Moi, ça me gêne vraiment parce que c'est le rôle de l'éducation nationale. Normalement, l'éducation nationale a ce rôle-là de transmettre la connaissance et le savoir à nos enfants et de les conduire vers une sortie positive. Et je m'inquiète parce que je me dis que finalement, on a une égalité d'accès à Parcoursup à partir de ce moment-là.
Patrice, deux mots.
Ce qui est important par rapport à l'éducation nationale, c'est que ces coachs en privé sont capables de dire à des jeunes, vous savez, avant il y avait une vie professionnelle, maintenant vous êtes susceptible d'avoir plusieurs vies professionnelles. Et puis ces coachs, eh bien, ils rassurent les parents également et ce n'est pas dédaigné.
Allez, une page au sport, très rapidement.
Je préfère que ce soit l'éducation nationale et les conseillers d'orientation qui soient renforcés pour faire ce travail.
Une page sport, très rapidement, avec le mondial de hand, finale royale pour une possible 7e couronne mondiale pour l'équipe de France à Stockholm, ce soir à 21h, face aux Français, les redoutables Danois. Chose promise, chose due. On termine par une petite note légère. Cette note légère, c'est le zoo de Thoiry qui propose à ses visiteurs pendant l'hiver les lumières sauvages. Alors, de quoi s'agit-il, me direz-vous? Je ne vais pas vous répondre. En revanche, Thibaut Marcheteau, lui, va vous répondre.
Au zoo de Thoiry, on y voit bien sûr toutes sortes d'espèces, mais également ces étranges créatures. Tous les hivers, les équipes disposent plus de 2000 plantes, animaux et personnages illuminés dans le parc du château.
C'est la première fois que je viens et je trouve ça plutôt sympa.
Oui, c'est sympa, c'est lumineux, il y a pas mal d'animaux, il y a même un peu le dinosaure de l'autre côté. Non, c'est sympa, ludique pour les enfants, bonne idée, belle initiative.
Une fois que le ciel s'assombrit, les créatures, elles, s'illuminent et la magie opère. Pour le plus grand plaisir des 1700 courageux qui ont bravé le froid pour participer à cette course, 10 km, à travers les allées féeriques du zoo. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, beaucoup avaient encore des étoiles plein les yeux.
C'est génial, super moment.
Super moment, c'est clair. Génial, bonne organisation, tout ça,
ouais.
Tout
nickel. Génial, on est ravis.
Merci.
Le parcours, il est super, les lumières et tout, c'est sympa.
Il est encore possible d'admirer tous les décors des lumières sauvages du zoo de Thoiry jusqu'au 5 mars prochain.
Super beau. Alors, ça vous plaît?
Ah oui, c'est magnifique.
C'est très beau. Sympa, je vous ai promis quelque chose de magique et de joli.
Merci.
Patrice,
c'est Noël, c'est ça?
Bah, c'est pas Noël encore. Hein. Bon, bah, écoutez, fin de ce Mini News Weekend. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis et merci surtout pour votre grande fidélité. On est super contents. Merci à vous, Naïma Mfadel, Laura Lebar, Patrice Arditi, Harold Iman avec ses célèbres bretelles. Merci à Thomas Leroy, à David Brunet, à François Hepp, à Coralie Deleplace. Merci à Barbara Delab et Emmanuel Aumonier à la programmation. Merci aux équipes en régie, vous avez été magiques. Vous pouvez revivre ce journal sur notre site cnews.fr et tout de suite.
Une autre émission.
Enquête d'esprit avec Émeric Pourbet. Voilà, Émeric Pourbet. Belle journée sur CNews et moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, à partir de 10h30 pour Mini News Weekend. Belle semaine sur CNews.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.